Bonjour à tous. Nous continuons dans notre série d'études des grands ou des petits personnages de la Bible. Luc nous a déjà conduit dans la découverte de la fille de Jephthé, de Déborah. Je vous avais déjà entretenu de David. Lors de l'épisode célèbre du combat entre David et Goliath, et je continue avec David dans une autre phase de sa vie. Et c'est vrai que David c'est un personnage central dans la Bible, dans l'histoire du salut, d'abord parce que David fait partie de ceux qui dans la Bible sont appelés des types de Christ, dans plusieurs aspects de sa vie, de sa personnalité. Il est un prémisse de ce que sera le Christ, et on va le voir dans le passage qu'on va étudier ensemble. En même temps, David, c'est quelqu'un qui, dans lequel nous pouvons tous nous identifier à travers ses victoires, à travers ses chutes et à travers la façon dont Dieu le relève. Et le passage qu'on va étudier ce matin, c'est une partie de sa vie particulièrement tragique, particulièrement triste, et en même temps qui va présenter David comme l'homme qui se confie à Dieu dans la détresse. C'est un passage qui couvre 6 chapitres, donc on va pas tout lire. Je vais en choisir seulement certains, donc je fais monter le suspense là, mais donc le passage qui va nous intéresser concerne ses fils, concerne la famille de David, et en particulier donc ce qui s'est passé avec son fils Absalom. Donc ça se trouve dans 2 Samuel, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 19. Et donc c'est une histoire dont on parle pas si souvent que ça. J'ai le souvenir peut-être d'une prédication sur le sujet de qui nous parle d'Absalom, mais c'est pas un passage qu'on étudie régulièrement. Peut-être parce que effectivement c'est tragique, ça contient une part de sordide. Et pourtant, je pense que Dieu veut nous enseigner quelque chose à travers ce que David a vécu avec. Je dis son fils Absalom. En fait, cette histoire nous parle au moins de quatre de ses fils. Amon, son aîné, Absalom qui vient ensuite, et puis un peu après Adonia, et puis finalement Salomon. Donc 4 de ses fils, donc c'est pour vous dire que ça me permet de m'identifier à ce que David va vivre. Donc une histoire de division, une histoire de trahison, et puis l'histoire d'échecs. Au moins 3 échecs dans cette histoire-là qu'on va essayer de voir ensemble. L'échec du roi David, mais l'échec du prince aussi, Absalom, et puis l'échec du peuple, dans la façon dont il va réagir dans ce qu'on va lire. Donc je vais commencer au chapitre 13, je vais lire des passages, et puis combler entre les trous, je lirai pas. Donc ça commence au chapitre 13. Je lis le premier verset. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Donc Amon va donc tomber amoureux de sa demi-sœur, sœur d'Absalom, et il va, par un subterfuge, réussir à la faire venir chez lui, et finalement à la violer, en faisant semblant d'être malade. On lit ça au verset 6. « Amon se mit donc au lit et fit semblant d'être malade. Le roi David vint le voir, et Amon lui dit, « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare deux galettes sous mes yeux, et je le mangerai demain. » Et donc, avec ce subterfuge, Amon va arriver à ses fins pour finalement rejeter sa sœur dans la honte, la mettre à la porte avec dégoût. Et donc Tamar va voir son frère Absalom. Donc on lit au verset 19, toujours du chapitre 13. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête, elle déchira sa longue robe, se prit la tête à deux mains et elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, ton frère Amon t'a-t-il fait violence? Maintenant ma sœur n'en parle pas, c'est ton frère, ne prends pas la chose trop à cœur. Dès lors Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonné. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amon, ni en bien ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Deux ans plus tard, Absalom avait des tondeurs à Baal-Hatsor, près d'Éphraïm. Il invita tous les fils du roi, il se rendit chez le roi et lui dit « Tu sais que ton serviteur fait tondre les moutons, que le roi et ses hauts fonctionnaires veulent bien venir chez ton serviteur ?» Mais le roi lui répondit, « Non, mon fils, nous n'allons pas tous venir, ce serait une trop lourde charge pour toi. » Absalom insista, mais le roi refusa l'invitation et lui donna simplement sa bénédiction. Absalom reprit, « Si tu ne peux pas venir, permets au moins à mon frère Amon de nous accompagner. » Absalom nourrit la haine et la vengeance dans son cœur, et là aussi, par encore un subterfuge, il va se débrouiller pour faire venir Amon chez lui. Et il va le faire assassiner par ses serviteurs. Et puis il va s'enfuir chez son grand-père, donc qui était un roi local voisin d'Israël. Et il va s'y cacher. On lit un peu plus loin au verset 38 à la fin du chapitre 13. Absalom resta pendant 3 ans réfugié à Geshur. Le roi David finit par renoncer à poursuivre Absalom, car il se consolait peu à peu de la mort d'Amon. Joab, fils de Tseruya, donc ça c'est le général en chef de David, remarqua que le roi était de nouveau disposé favorablement envers Absalom, et il fit venir de Tekoa une femme habile, et donc il va utiliser un peu le même subterfuge que Nathan quand il va parler d'une autre circonstance pour que finalement David accepte de faire revenir Absalom. Et on lit ça un peu plus loin. Le roi l'a donc parlé à Joab et lui dit « J'ai décidé d'agir comme tu me l'as suggéré. Va chercher le jeune homme Absalom et ramène-le ici. » Joab inclina la face contre terre pour se prosterner et dit au roi « Que Dieu te bénisse. » Donc il va chercher Absalom. Et le roi ordonna que Absalom se retire dans sa maison et qu'il ne paraisse pas en sa présence. Absalom se confina donc chez lui et ne parut pas en présence du roi. Donc il va rester là pendant un certain temps. Et il va encore se débrouiller pour que Joab vienne le voir et aille plaider sa cause encore une fois auprès du roi. Et donc Joab se rendit chez le roi et il rapporta les paroles d'Absalom. Alors le roi fit appeler Absalom et celui-ci se rendit auprès de lui et il se prosterna face contre terre devant le roi et le roi l'embrassa. Donc un peu comme l'histoire du fils prodigue, hein, ça fait un peu penser à ça, le fils qui revient et le père qui l'embrasse. Mais contrairement à cette histoire que Jésus raconte, la repentance d'Absalom est inexistante. Et on lit un peu donc dans le chapitre suivant. Là, je vais lire un peu plus longuement. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi qu'une garde personnelle de 50 hommes qui couraient devant son char. Il se levait de bon matin, se postait au bord de la route qui conduisait à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait un homme qui se rendait auprès du roi pour demander justice à propos d'un litige, Absalom l'interpellait et lui demandait « De quelle ville viens-tu » L'autre répondait « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël. » Alors Absalom lui disait « Ta cause est juste et tu es dans ton bon droit, mais vois-tu, personne ne t'écoutera chez le roi. » Puis il ajoutait « Ah, si je rendais justice dans ce pays, tous ceux qui seraient en litige ou en procès viendraient me trouver et je leur ferais justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour s'incliner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait, l'embrassait. Absalom agissait ainsi envers tous ceux d'Israël qui se rendaient auprès du roi pour demander justice. De cette manière, il conquit insidieusement les suffrages des gens d'Israël. Et au bout de 4 ans, Absalom dit au roi « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir un vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, pendant son séjour à Geshur en Syrie, ton serviteur a fait ce vœu. Si l'Éternel me laisse retourner à Jérusalem, je lui offrirai un sacrifice. » Le roi lui dit « Va en paix. » Absalom partit donc et se rendit à Hébron. De là, il envoya des émissaires dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Dès que vous entendrez une sonnerie de cor, vous pourrez dire « Absalom est devenu roi à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem, invités par Absalom, partirent de bonne foi avec lui, sans se douter de ses intentions. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher Ahithophel, le Guilonite, conseiller de David, dans la ville de Guilo. Ainsi, la conjuration devient puissante et le parti d'Absalom fut de plus en plus nombreux. On vint annoncer à David que les Israélites prenaient parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem « Allons, fuyons au plus vite, sans quoi personne n'échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il nous prendra de vitesse et il nous rattrapera. Il nous précipitera alors dans le malheur et massacrera toute la population de la ville. » David s'enfuit avec ceux qui veulent le suivre, essentiellement d'ailleurs des non-israélites. Il est parlé de Ittai, chef des Gatiens, beaucoup de guerriers que David a réunis autour de lui alors qu'il a été pourchassé par Saül. Donc ces gens-là vont l'accompagner. Et David va s'enfuir de Jérusalem, voir en fait qui aussi va se ranger de son côté et qui va prendre le parti d'Absalom. Joab va rester avec lui, Tsadok, le grand prêtre aussi, va rester avec lui, et un peu plus loin, on voit ce grand prêtre qui apporte le coffre de l'Alliance devant David. Et le roi dit à Tsadok, « Ramène le coffre de Dieu dans la ville. Si l'Éternel m'est favorable, il me fera revenir et me permettra de revoir le coffre ainsi que le sanctuaire. Si par contre il déclare « Je ne prends plus plaisir en toi », eh bien, qu'il me traite comme bon lui semblera. » Donc Tsadok rapporte le coffre de l'Alliance à Jérusalem. Et David continue, « Cependant, David gravissait pieds nus et la tête voilée la montée des oliviers. » Il s'avançait en pleurant. Tous ceux qui l'accompagnaient s'étaient aussi voilés la tête et montés en pleurant. Donc je disais que on retrouve en David un type du Christ, et cette image-là de David qui monte la montée du mont des Oliviers en pleurant, pourchassé par son propre peuple. On retrouve là une image, je trouve, puissante de ce qu'a vécu le Christ. Alors je lis donc ça, ok, je viens de le lire. Donc l'histoire continue comme ça pendant un bon moment. Donc David va s'enfuir loin de Jérusalem. On a lu que Ahithophel, un de ses conseillers, va le trahir et s'approcher d'Absalom. D'ailleurs, ce Ahithophel était le grand-père de Bathsheba. Et Dieu va garder David. Il va permettre que certains, justement, le secondent, certains le prennent son parti, convainc Absalom de ne pas écouter les bons conseils, et finalement David en réchappe, et au bout du compte David réunit une armée de ceux qui lui sont restés fidèles, Et cette armée va aller combattre l'armée d'Absalom, et on trouve ça au chapitre 18. Et donc, alors que l'armée de David part combattre l'armée d'Absalom, les soldats demandent à David de ne pas participer au combat pour éviter une défaite trop importante si David venait à tomber. Et David leur dit « Je ferai ce que vous jugerez bon ». Il se plaça donc près de la porte de la ville et toute l'armée sortit par centaines et par milliers. Et le roi donna cet ordre à Joab et à Abishai et à Ittai, donc ses généraux. « Par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom. » Toute la troupe l'entendit donner cet ordre à tous les chefs de l'armée au sujet d'Absalom. Et l'armée sortit dans la campagne pour combattre Israël. La bataille s'engagea dans la forêt d'Éphraïm et l'armée d'Israël fut battue là par les hommes de David. Elle subit une lourde perte de 20 000 hommes. Et les combattants s'éparpillèrent. Donc l'armée de David est victorieuse. Absalom s'enfuit à son tour et le texte nous dit que Absalom, donc, qui avait des cheveux très longs. D'ailleurs, j'ai raté ce passage-là, mais à un moment donné, on décrit Absalom dans tout Israël, il n'y avait personne qui fût autant admiré pour sa beauté qu'Absalom. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il était sans défaut. Chaque année, il se rasait la tête car sa chevelure devenait trop pesante. Et donc Absalom, en s'enfuyant, va prendre ses cheveux dans un arbre, rester là suspendu. Et Joab, l'apprenant, va, alors que les soldats refusaient de le tuer parce qu'ils avaient entendu ce que David avait demandé, Joab, lui, va décider de tuer Absalom. Il va le tuer. Et donc David va apprendre la nouvelle à la fois de la victoire et à la fois de la mort de son fils. Et donc je lis le passage où donc au chapitre 19 où David apprend la mort d'Absalom. Alors le roi frémit. Il monta dans la chambre supérieure au-dessus de la porte et pleura. Tout en marchant et en sanglotant, il ne cessait de répéter « Mon fils, Absalom, mon fils, Absalom, si seulement j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » On vint dire à Joab « Voici que le roi pleure et mène le deuil sur Absalom. » Et ce jour-là, au lieu de chanter la victoire, tout le peuple mena le deuil, car il avait entendu dire que le roi était accablé de douleur à cause de la mort de son fils. Ce même jour, tous les hommes rentrèrent à la dérobée dans la ville comme une armée honteuse d'avoir pris la fuite dans une bataille. Le roi s'était voilé le visage et continuait à crier « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Joab alla le trouver dans la maison et lui dit « Tes soldats viennent de te sauver la vie ainsi que celle de tes fils et de tes filles, de tes femmes et de tes épouses de second rang. Et aujourd'hui, toi, tu les couvres de honte. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Tu montres aujourd'hui que les chefs de ton armée et les hommes qui te servent ne comptent pour rien à tes yeux. Oui, je vois bien à présent que si Absalom était vivant et nous étions morts, tu trouverais cela bien. » Maintenant, ressaisis-toi, sors et adresse à tes soldats des paroles de félicitations et d'encouragement, car je te le jure par l'Éternel que si tu ne fais pas cela, pas un seul homme ne restera cette nuit avec toi. Et ce sera pour toi le pire des malheurs qui te soit arrivé depuis ta jeunesse. Alors, le roi se leva et alla s'installer à la porte. On fit annoncer à toute l'armée que le roi siégeait à la porte et tous vinrent se présenter devant lui. Donc, je l'ai dit, cette histoire raconte un triple échec. L'échec de David, l'échec du prince, et puis l'échec du peuple. On va commencer avec l'échec du peuple. David est celui qui les a libérés des Philistins. David a été un chef de guerre pendant toute sa vie. Il a combattu contre les peuples qui étaient autour d'Israël jusqu'à ce que Israël rentre dans les frontières que Dieu avait prévues pour lui. C'est David qui a accompli cette délivrance pour son peuple et on voit là le peuple qui va écouter Absalom, qui va prêter l'oreille aux belles promesses que Absalom va faire d'une justice plus équitable. Alors plus équitable, on se demande comment Absalom peut donner raison à tous, mais on le voit qui qui promet un avenir meilleur, et le peuple va écouter. C'est un échec, pas seulement parce que le peuple se choisit un dirigeant qui est probablement un mauvais dirigeant, mais surtout parce que le peuple ne discerne pas, encore une fois, ne discerne pas que à travers David, c'est l'Éternel qu'il rejette. David, c'est loin de l'Éternel, celui que l'Éternel a choisi pour conduire son peuple. Et le peuple va ignorer cette dimension de la royauté de David pour se choisir quelqu'un qui paraît plus adéquat. Cet échec, c'est d'abord un échec de discernement. Le peuple ne perçoit pas l'enjeu spirituel qui est derrière la royauté de David. Un échec du prince, l'échec de d'Absalom. Absalom, toute sa vie est un. J'ai envie de dire que toute sa vie est un échec. Absalom, c'est le type du faux berger. On a déjà parlé de David, qui est le type du berger, celui qui ne recherche pas le pouvoir, celui qui sert d'abord son peuple, qui pense d'abord à le protéger, à le servir, celui qui se soumet à Dieu, on va le voir en partie seulement, mais qui se soumet à Dieu. Absalom, c'est l'opposé complet de ce bon berger. Absalom, lui, veut le pouvoir, c'est ça qu'il va rechercher. Il ne sert que lui. C'est d'abord sa personne et ses ambitions qu'il va servir, et Absalom ignore complètement Dieu. À aucun moment la volonté de Dieu n'entre en ligne de compte dans les choix qu'il va faire. Même sa sœur finalement n'est qu'un prétexte, qu'un mobile dans ses actes, quand sa sœur vient le voir après son agression par Amon. Il n'a pas de mot de réconfort pour elle. Il lui demande simplement de se taire, simplement de mettre sa souffrance et sa peine de côté, de les ignorer. Et il va se servir de ce drame pour finalement assassiner le fils aîné et le premier descendant du trône. Absalom va être extrêmement habile. Il va savoir jouer des faiblesses. D'abord des faiblesses de son père, et on va y revenir. Mais il va aussi savoir jouer des faiblesses du peuple. On le voit qui joue sur les divisions, qui joue sur les rancunes des uns et des autres. Il va se mettre en avant, jouer de sa prestance. On a lu qu'il était particulièrement beau et impressionnant par son apparence. Il va savoir jouer de ça. Donc il va être diablement habile, politiquement, socialement. Il va savoir se placer et jouer sur les bons leviers, au bon moment, avec un bon timing. Il va savoir mettre ceux qui étaient pas franchement de son côté devant le fait accompli, en les invitant au moment où il déclare sa rébellion contre David. Donc le type du mauvais berger, du faux docteur, du loup qui prétend conduire les brebis, mais qui ne veut que les dévorer. Un narcissique qui utilise tout et tout le monde pour servir son propre orgueil. Et c'est cet homme-là que le peuple, dans son aveuglement, va décider de suivre en oubliant tout ce que David a fait pour lui. Donc l'échec du prince. Et puis l'échec du roi. L'échec de David. Et cet échec commence avant cet épisode-là. Cet échec remonte à son péché avec Bathsheba. Au chapitre précédent, Nathan a prophétisé sur David, après lui avoir dénoncé son péché, il lui dit, donc chapitre 12 et verset 10, « Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel, je vais faire venir le malheur contre toi, du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai tout cela sous les yeux d'Israël au grand jour. » La violence ne quittera plus jamais ta famille. Et on voit là donc la mort de deux des fils de David. Les versets suivants vont parler de la mort encore d'un de ses fils, Adonia, qui va essayer de prendre le pouvoir à la place d'Absalom. Là aussi, on y reviendra un peu. Donc, une malédiction que Dieu place sur la famille de David. Et je pense que plus qu'une malédiction que Dieu place, Dieu décrit simplement les conséquences du péché dans la vie de David, les conséquences de son incapacité à se soumettre complètement à Dieu. Dans ce passage, on voit David comme un père aimant, comme un père impliqué dans la vie de ses enfants. Dans les quelques versets qu'on a lus, on le voit qui se rend au chevet de son fils malade. On le voit qui ne veut pas trop charger Absalom en venant que toute sa cour vienne chez lui. On le voit qui essaie de régler les conflits entre ses enfants. Il est présent dans la vie et on le voit qu'il les aime. Et bien sûr, donc le dernier passage qu'on a lu, quand David pleure son fils, on voit un père qui aime ses enfants. Et pourtant, il est incapable de mettre des limites, de mettre des limites à ses fils, ni à Amon qui a agressé sa propre sœur, ni à Absalom qui a tué son propre frère, et qui fomente une sédition pendant 4 ans. Et le texte nous rappelle souvent que David était au courant de tout ce qui se passait dans le royaume. On peut pas imaginer qu'il n'était pas au courant de ce que David faisait à la porte de sa ville. Pardon, de ce que Absalom faisait à la porte de sa ville. Et pourtant, il est incapable de mettre un terme à ça. Et on peut même lire donc dans Un Roi, un petit peu après, quand il est question d'Adonia. À cette époque, Adonia, fils de David et de Haggith, exprimait son ambition en prétendant « c'est moi qui régnerai ». Il se procura un char, des chevaux, donc 50 hommes qui couraient devant son char comme Absalom. Et jamais, sa vie durant, son père ne l'avait réprimandé ou ne lui avait dit « pourquoi fais-tu cela ?» David est incapable de placer des limites à ses enfants. Dans les fois précédentes où j'avais parlé de lui, on avait un peu parlé de son propre père et de ses frères à David. Et vous rappelez qu'il était peu considéré, hein, que quand Samuel est venu visiter sa famille, David, on l'avait laissé de côté. Il a fallu que Samuel le demande explicitement pour que finalement il puisse venir. Il était rejeté par ses frères. On voit ça au début de l'histoire avec Goliath. Donc David, probablement le fils rejeté et peu aimé dans sa propre famille et qui se comporte complètement différemment avec ses propres enfants et au contraire les aime sans aucune limite et sans cadre. Alors c'est évidemment c'est facile de poser ce constat 4000 ans après dans un contexte qui n'est pas le nôtre, hein, une culture différente et personnellement je sais pas comment David aurait dû se comporter avec ses enfants. David était un roi polygame, donc c'est déjà ça nous est épargné, mais sa culture a été très différente de la nôtre. Et comment placer les bonnes limites et de quelle façon, je n'en sais rien, mais on voit clairement que David rate la volonté de Dieu pour sa propre famille. Et donc cet échec de David, c'est d'abord son incapacité à donner à Dieu la royauté sur sa propre famille. Et là aussi, David, j'avais dit, dans le combat contre Goliath, David discerne l'enjeu, contrairement à tous les autres. Il discerne dans le combat contre Goliath un combat spirituel, et il le remporte au nom et avec la puissance de Dieu. Eh bien, dans sa vie de famille, David ne discerne pas, cette fois-là, l'enjeu spirituel. Discerne pas l'enjeu, il ne discerne pas que Dieu se sert aussi de la famille et de sa famille pour manifester sa gloire. Dieu manifeste sa gloire dans le peuple, à travers son peuple élu, comme Dieu manifeste sa gloire dans l'Église, et Dieu manifeste aussi sa gloire dans la famille, dans nos familles. Et s'il manifeste sa gloire dans la famille, c'est que là aussi Dieu doit régner. Dans cet enjeu spirituel, la famille a aussi besoin de la libération, et que Dieu seul peut apporter. David n'a pas été libéré de ce qu'il a vécu comme enfant, comme fils. Il est resté enchaîné, avec plein de bonne volonté, manifestement, plein d'amour, mais cet amour enchaîné a pas suffi à libérer sa famille et à ce que Dieu puisse guérir et bénir dans cette dimension-là de sa vie. Et c'est particulièrement manifeste quand David va pleurer Absalom. Et c'est un passage qui est marquant parce que David pleure son fils, et qui peut reprocher à un père de pleurer son enfant? C'est une tragédie, un déchirement qu'on peut pas vraiment imaginer. Et il pleure son fils, et en le faisant, on voit qu'il a raté de discerner que la gloire de Dieu passe par sa soumission à lui dans sa famille. David a toujours glorifié Dieu avant sa propre vie. On le voit d'ailleurs dans ce passage-là, quand il dit « voilà, je m'enfuis », et il dit donc au prêtre « ramène le coffre, parce que si Dieu me fait grâce, je reviendrai, et si Dieu me rejette, alors que sa volonté s'accomplisse. » La propre vie de David l'a fait passer bien après la bien après la gloire de Dieu. Mais quand il s'agit de sa famille, il échoue à faire ça, il échoue à lui remettre sa famille. Et remettre sa famille entre les mains de Dieu, c'est vrai que ça veut dire d'abord lui faire confiance au fait que Dieu va en prendre soin, que Dieu va corriger et réparer ce qui est tordu. Et ça veut dire aussi se soumettre à sa volonté, se soumettre à sa loi, accepter que la volonté de Dieu passe avant la sienne. Et quand ses fils ont transgressé la loi, il a été incapable de l'appliquer sous une forme ou sous une autre. Et pourtant, Dieu va relever David. Et cette histoire, c'est aussi une histoire du salut. Parce que David va se confier en l'Éternel dans cette épreuve qu'il est en train de traverser. C'est là sa grande force. C'est que David va tout remettre entre les mains de Dieu. Il dit ça, par exemple, dans le psaume 3, qui parle de sa fuite devant Absalom. Et David va parler donc de ses ennemis qui l'entourent. Il parle de sa voix qui crie vers l'Éternel, de sa montagne sainte, « Mon Dieu m'exaucera. Je me couche et je m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui se sont postées autour de moi. » Dieu va sauver David. Il va lui permettre de conserver la vie, de conserver la royauté. Et pour nous, encore maintenant, David reste l'homme qui se repose en l'Éternel dans la détresse. Et après cet épisode-là, David va encore traverser une épreuve avec ses fils. Donc j'en ai lu un petit morceau quand son fils Adonia va essayer de prendre le pouvoir. Et là, David, cette fois-là, va se lever. Il va se lever et prendre le parti de Salomon. De Salomon, celui qui était l'enfant de la promesse, celui avec qui Dieu a donné la promesse de continuer ce plan du salut que Dieu a mis sur David et sur sa famille et sur Israël. Celui que Dieu a choisi, eh bien, David va finalement se lever pour lui, au prix même de devoir s'opposer à un de ses fils. On voit dans cette histoire plein d'applications pour nos vies, pour l'Église. Hein, quand j'ai parlé de l'échec du peuple, ça en tant que communauté, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, ça nous interpelle de cette façon qu'a le peuple de suivre un faux berger, d'accepter les divisions, d'accepter qu'un homme mette en avant des préoccupations toutes humaines au mépris du plan de Dieu pour son peuple. Et puis évidemment une application au niveau de notre vie de famille, où l'échec de David nous montre combien l'enjeu spirituel dans notre famille est important, combien l'enjeu de la relation à Dieu dans notre vie de famille est fondamental. Cette histoire, c'est une histoire de comment le péché arrive à faire pousser ses racines dans les failles, comme les racines d'un arbre qui pousse et qui font éclater la pierre. Et c'est ce qu'on voit. Hein. On voit le péché qui écarte les failles dans le peuple, qui écarte les failles dans la famille de David et qui fait casser ce qui paraissait solide. Dieu a un projet pour nous. Il a aussi un projet à travers nous. Il a un projet de restauration. Il a un projet de salut pour nous. Et puis aussi à travers nous. Et ce projet, il s'attend à ce que nous le discernions. Il s'attend à ce que nous nous y engagions. Et puis aussi, il s'attend à ce que nous nous y soumettions. Dieu veut que... Il veut régner dans chacune des dimensions de notre vie. Il est prêt à venir pour transformer ce qui doit être. Par rapport à l'époque de David, nous avons une proximité avec Dieu que David n'avait pas, parce que Dieu est venu habiter jusque dans notre propre corps, propre cœur. Il veut que nous nous soumettions activement, volontairement, dans chacune des dimensions de notre vie. Et je vais conclure cette étude avec un passage un enseignement de Jésus auquel j'ai pensé en préparant ce texte qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 10. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, on peut mettre famille à la place de vie. Celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Que le Seigneur nous conduise sur ce chemin-là. Merci.